Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Bah voilà, il est tout pile 9h40 sur France Inter. C'est reparti pour une nouvelle semaine dans ce temps M.
Vous êtes en direct, allez-y.
275 pages sur Jean-Luc Delarue. Je laisse de côté la spirale cocaïnomane, les échecs amoureux, les mauvais génies, la paranoïa, la relation perverse que cet homme aura entretenue jusqu'au bout avec sa mère, sa descente aux enfers pavée d'une garde à vue et d'un cancer. Gardons la colonne vertébrale de ce livre paru chez Fayard, le portrait d'un animateur plus doué, plus visionnaire que toute sa génération, plus ambitieux aussi. Histoire d'une créature de la télévision adulée par le public, porté au nu par une industrie qu'il veut dévorer, mais qui le dévorera tout entier. L'enquête de Vincent Mellet, mon invité, raconte les dessous de l'écran dans les années 90-2000. Un milieu violent, fait d'intuitions géniales, de narcisses ingérables et de braqueurs de patates. La télévision est une passion, pas seulement pour ceux qui la regardent, mais aussi pour ceux qui la font. Reste que la puissance de ce média s'avère à double tranchant, s'auto-détruisant, au lieu parfois de se projeter vers l'avant.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Jean-Luc Delarue, mort en août 2012 à 48 ans. Bonjour Vincent Mellet.
Bonjour Sonia.
Vous aviez sensiblement le même âge. Je vous présente Vincent Mellet, ancien patron de France 3, puis d'Arte, puis brièvement de France 2, dont vous fûtes viré en moins d'un quart d'heure. Vous le racontez au tout début du livre. Ça vous a donné quelques semaines, quelques mois pour écrire ce Jean-Luc Delarue, la star qui ne s'aimait pas, paru chez Fayard. Mais la télévision, pourtant, vous l'aimez toujours, malgré cette lucidité. Vous êtes aujourd'hui le producteur de
C'est un nouveau départ pour écrire une histoire. Il faut jouer pour voir demain.
De demain nous appartient, lancé en juillet 2017 sur TF1, c'est l'access prime time de la première chaîne, diffusée à 19h20, je
Exactement.
Crois, c'est ça, voilà. Qui en un an a énormément progressé en matière de chiffres et de parts de marché. Donc juste avant de parler de Jean-Luc Delarue, j'aurais simplement aimé que vous nous donniez simplement peut-être la recette. Comment on fait pour faire basculer un feuilleton comme ça et faire progresser les chiffres de manière aussi visible?
Ben vous allez être déçu. Je pense que le mot, c'est le travail. C'est ouais. Tout simplement un feuilleton quotidien. C'est donc 26 minutes à sortir tous les jours, sur 5 jours. C'est un travail collectif. Il y a 200 personnes qui y travaillent. Et donc, on a amélioré les histoires. Faut faire en sorte que ces histoires mettent en enjeu les enjeux psychologiques des personnages en avant. On a nettement amélioré les dialogues. Du coup, les interprètes ont plus de choses difficiles à jouer, donc ils sont encore plus motivés qu'avant. Les metteurs en scène sont plus libres, on met de la meilleure musique et les chefs-op s'amusent pour essayer qu'on ait la meilleure image. Et tout ça, tout ce travail collectif porte ses fruits au fil des jours.
Voilà, fait que les chiffres grimpent. Vincent Mellet, donc, vous aviez 28 ans, vous étiez extrêmement timide, vous étiez responsable des études. Vous vous êtes retrouvé plus d'une fois au téléphone avec Jean-Luc Delarue ou dans des bureaux à observer ses face-à-face avec les monstres sacrés de la télé. Jean-Luc Delarue, monologue d'introduction à Ça se discute sur France 2.
Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir, bonsoir. C'est le Ça se discute du mardi soir. Bientôt la centième de Ça se discute et on s'est permis ce soir un débat éternel ou presque. Peut-on échapper à l'infidélité? C'est vrai que la question est éternelle.
Nous sommes au mi-temps des années 90. Jean-Luc Delarue, dites-vous, Vincent Mellet, a visionné les talk-shows américains et il a une vision qui s'avérera très juste comme intuition. L'animateur doit s'imposer de manière omniprésente. Le public ne vient pas voir Ça se discute, il vient le voir lui. Et c'est le début d'une nouvelle ère à la télévision.
Oui, alors honnêtement, il a deux intuitions très fortes. Il a celle-ci. Et c'est vrai qu'il se crée un personnage qui va être l'animateur de Ça se discute, qui va un petit peu le lasser au fil des années. Mais en tout cas, il le crée parce qu'il vient le voir. Après, il a une autre intuition très forte, c'est que la télévision, c'est du travail. Et il met derrière lui une rédaction qui prépare toute l'émission. C'est-à-dire que l'émission est faite, les témoins sont tellement préparés à la rencontre avec Jean-Luc Delarue. Et c'est vrai que Jean-Luc Delarue, il est la personne qu'on suit dans Ça se discute. On a l'impression d'être dans la discussion, c'est lui qui fait l'interview. Mais tout ça a été très préparé à l'avance.
Voilà. D'où cette ambivalence, parce que vous dites qu'il incarne sans scrupule une génération profondément individualiste et arriviste et opportuniste et carriériste. Et en même temps, il incarne cette télévision supposée être généreuse, à l'écoute. C'est le début du testimonial à la télévision française.
Le testimonial, il y a des racines très anciennes dans la télévision, mais c'est vrai que...
À la radio, surtout.
Voilà. Mais il y avait aussi Aujourd'hui Madame à la télé, où il y avait déjà des témoignages un petit peu de cela. Et puis depuis 5 ans,
Mireille
il commence
Dumas
à faire.
Il y avait
Mireille Dumas
déjà.
Un petit peu commencé. Et lui, il arrive à faire une émission qui est assez étonnante, parce qu'en fait, quand on la revisionne 10 ans après... On se rend compte que c'est une émission assez lente, où le temps de parole était donné, mais tout était magnifié. C'est-à-dire qu'il l'a mis en place comme si c'était une star du showbiz qui venait d'être interviewée. Donc là, le décor était beau, la lumière était splendide, tout était bien préparé. Et après, lui, il avait cette capacité d'écoute en tant que tel pour tirer le maximum de ses invités.
Et à propos d'écoute, vous revenez sur cette fameuse oreillette qu'il a donc contribué à faire découvrir aux téléspectateurs et même qu'il a instauré sur le plateau télé. On a fait de lui un animateur sans cervelle.
C'était tout le contraire. En fait, il assume, avant c'était le téléphone, et lui il assume l'oreillette pour le montrer, mais c'était lui, en fait c'était vrai qu'il avait besoin d'une décharge d'adrénaline tout le
c'est
temps.
Ça. Pour ça le mettait sans cesse sous pression.
Sous pression, mais simplement il n'en tenait compte que 2 fois sur 3 en tant que tel. Voilà. Le tout était que c'était une émission surtout très écrite à l'avance, toutes les questions, il savait, lui, parce que les interviewés étaient interviewés par ses équipes au moins 3 ou 4 fois avant d'être face à lui. Donc, il savait à peu près, il connaissait par cœur l'histoire de la personne qui était en face. Donc, il savait ce qu'il avait envie de faire dire et en tant que tel.
Jean-Luc Delarue, producteur, ça va donner également ça.
Tous nos invités d'aujourd'hui ont tous des animaux qui sortent de l'ordinaire. Ils chantent, ils savent compter, ils sont acrobates ou encore équilibristes. Nos animaux d'aujourd'hui vont certainement tous vous surprendre, mais saurez-vous deviner ce que chacun de ces animaux sait faire d'extraordinaire ?
C'est mon choix, ce sera sur la 3 du testimonial plus populaire, parce que vous le dites, finalement c'était un casting de classe moyenne blanche, on va dire, ça se discute. Oui. Et là, on va dire c'est socialement
plus populaire d'une part, et puis par ailleurs il y avait des grandes discussions dans la rédaction de ça se discute sur quelle part on donnait au spectacle, il y avait une volonté de pas franchir une certaine ligne, et là il y a, franchement c'est pensé comme une émission aussi de divertissement. Alors, en plus, C'est mon choix était une émission qui chaque jour n'avait pas exactement le même concept. Il y avait un peu de la société, il y avait du divertissement pur, qui était un peu l'eurolooking, ou l'extrait que vous avez pris. Et c'est vrai que c'était tout ce qu'on ne faisait pas dans Ça se discute, et c'est vrai que ça a été un succès démentiel.
Démentiel, et une animatrice portée au nu, qui a même été choisie par les maires de France pour poser pour le buste de la Marianne, Evelyne Thomas. Et là aussi, dans la relation qui se noue et qui se développe entre le producteur et son animatrice, ça dit beaucoup à la fois de la jalousie et en même temps du statut de cet animateur télé.
Oui, la grande qualité de Jean-Luc Delarue était d'être un producteur pour toutes les chaînes et d'avoir produit beaucoup d'animatrices ou d'animateurs autres que lui. Mais c'est vrai que la popularité d'Evelyne
Thomas,
elle
a cristallisé quelque
était
chose.
Vraiment sous son genre proche. Elle était plus populaire. Elle n'était pas gênée par sa popularité. Elle aimait ça. Et il y a eu à un moment aussi Evelyne Thomas, voyant les scores d'audience, a voulu venir sur son terrain de productrice. Et à ce moment-là, ça a été beaucoup plus violent en tant que tel, et surtout dans une réunion où elle a demandé à animer une émission culturelle qui était pour lui la chose un peu interdite. Et il a préféré arrêter l'émission à ce moment-là.
C'est intéressant que vous dites que c'était pour lui un petit peu la chose interdite, parce que c'est là aussi l'un des fils de ce livre, c'en est même, je dirais, le fil rouge. C'est le mépris dont a souffert toute sa vie et toute sa carrière, Jean-Luc Delarue. Mépris d'une certaine classe sociale, mépris d'une certaine génération, ses aînés, mais également mépris...
Des branchés, journalistes qui veulent faire la carte de presse à tous les moments. Alors, avec quand même une faiblesse chez lui, qui est sans doute sa faille, c'est qu'il a sans doute un mépris vis-à-vis de lui-même qui était à l'origine. Et c'est moi, c'est là, alors je vais un peu loin avec ça, mais c'est vrai que quand je dis que je suis une allégorie de la télévision, c'est vrai que pour moi la télévision a toujours essayé d'avoir une reconnaissance de statut culturel qu'elle n'a jamais pu obtenir, quels que soient ses efforts, et c'est ça que j'ai aussi parlé, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est la télévision en grande partie, en France, en tout cas en Angleterre c'est plutôt populaire, en France c'est le média des classes moyennes, mm-hmm. et qui a toujours eu du mal à avoir une reconnaissance, un statut, être respecté, quelle que soit la qualité de ses programmes en temps.
Voilà. Et alors, tout, évidemment, tout tourne autour de ce mot, culture, et d'un personnage, Jean-Pierre Elkabbach, central dans la carrière de Jean-Luc Delarue, et dans l'audiovisuel de ces années-là. À la mort de Jean-Luc Delarue, Jean-Pierre Elkabbach dira, il n'a pas su résister à la violence de la notoriété et de la télévision, car il n'avait pas assez de culture. Le jour où Jean-Pierre Elkabbach le fait venir et lui confie la matinale d'Europe 1, car Jean-Pierre Elkabbach a été le patron d'Europe 1, il a, dites-vous, une intuition géniale qui va à l'encontre de tout ce que pense la rédaction d'Europe 1 à ce moment-là de Jean-Luc Delarue. Et ensuite, il le fait venir sur le service public. Et au moment où il le fait venir sur le service public, il lui dit « Jean-Luc, vous n'êtes pas assez cultivé, on va demander à ma femme de vous faire une liste de livres que vous allez lire et que vous placerez habilement dans vos interviews. »
Oui, bah c'est un paternalisme un peu abusif de Jean-Pierre Elkabbach, mais qu'il faut dire que Jean-Pierre Elkabbach, dans toute sa carrière, a été quelqu'un, bon, d'une part, un des grands journalistes respectés, et Jean-Luc Delarue rêvait d'être un peu le nouveau Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach a découvert d'énormes talents. Mm-hmm. Après, il y a toujours eu, après, une confusion, une concurrence, parce que Jean-Pierre Elkabbach restait un homme d'antenne et un homme qui avait peur de la nouvelle, des nouvelles générations. Et ça se vit à plein de moments. C'est vrai que la difficulté de la télévision, c'est y a très peu de talents qui sont capables d'avoir des carrières comme Jean-Luc Delarue. Mm-hmm. Et encore, après, il y a très peu de talents qui arrivent à durer comme Jean-Pierre Elkabbach dans le thème, parce qu'il faut savoir se protéger d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il y a, y a des interviews où quand il arrive à Europe 1, il est interviewé par Jean-Pierre Elkabbach, qui montre un grand paternalisme auprès de Jean-Luc Delarue, qui lui était quand même quelqu'un dont la qualité première était une curiosité insatiable des autres. Il lisait toute la presse et il avait une culture pressée. Pour moi, ce que j'avais découvert dans ses mémoires, c'est qu'il a été décelé enfant surdoué en tant que tel. Et on parlait toujours de l'échec scolaire, mais en fait, voilà, il avait une intelligence non institutionnelle en tant que tel. Et c'est vrai que c'est... Quand on regarde les animateurs télé, quand je dis que j'aime les animateurs télé, tous, et même ceux qui pourraient vous étonner, ont une intelligence complètement émotionnelle, animale, véritablement, qui n'est pas scolaire en tant que telle. Mais on peut pas avoir un succès télé sans une vraie intelligence.
Voilà, Jean-Luc Delarue, qui se sent, lui, éternellement méprisé, et par sa mère et par son père, par qui il a été abandonné, donc qui passera sa vie à chercher ce regard-là et cette reconnaissance-là.
Abandonné est un mot un peu excessif, mais
en
voilà.
En tout cas,
voilà,
un père qui n'était pas présent. Donc il a passé sa vie à défier ses aînés, et avec Jean-Pierre Elkabbach, ça a été le bras de fer jusqu'au bout.
J'ai fait des maladresses et des erreurs, en particulier sur les animateurs-producteurs qui incarnent, et depuis longtemps, au moins 10 ans, qui incarnent tellement les contradictions et les ambiguïtés du système français. Je ne voudrais pas que l'attaque portée contre moi handicape le groupe France Télévisions pour une politique que j'ai décidé et que j'assume avec fierté devant vous. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en aller.
31 mai 1996, le scandale des animateurs producteurs Vincent Mellet, qui va donc être au cœur de la carrière de Jean-Luc Delarue, qu'on fait venir à France Télévisions pour incarner le renouveau et tenter de rajeunir à la fois l'antenne et le public, et à qui on propose de créer son entreprise. Et pour créer son entreprise, on va lui accorder des conditions jamais accordées dans le service public. 7 millions d'euros d'avance, puis 40 millions de francs, puisque c'était des francs à l'époque, 40 millions ensuite, un double salaire comme animateur puis comme producteur, des conditions de paiement extrêmement avantageuses, et puis un nombre d'émissions accordées sans budget ni devis, et une clause de sortie impossible.
Oui, alors c'est un contrat qui a été... c'est un des premiers contrats, donc il n'a pas été négocié en secret, en dehors de toutes les procédures
par Jean-Pierre Elkabbach et son équipe.
Néanmoins, c'est le paradoxe là, c'est Jean-Pierre Elkabbach paye très cher, il démissionne, alors que le système perdure, puisque juste après, on met les dispositions juridiques nécessaires.
On l'encadre, en réalité.
On l'encadre, il perdure, voire il se développe. Mm-hmm. Jean-Luc Delarue, dans les débuts des années 2000, a multiplié par un nombre important ce chiffre d'affaires. En tout cas, c'est le chiffre d'affaires au début des années 2000, il représente 2% de la redevance. Il a trois émissions, etc. Donc, c'est vrai que ce qui est arrivé, parce que moi c'est l'histoire de la télévision que je racontais, c'était un truc mystérieux quand même. Dans les années 80, on confie des émissions à des gens moins de 30 ans. Hein, je me suis amusé hier de regarder sur France Inter qui avait moins de 30 ans sur l'antenne de France Inter. J'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai trouvé à 33 ans. Voilà. Et alors qu'il avait même pas 25, 26 ans quand il fait la matinale de France Inter. Donc il y a une sorte de grande jeunesse. Il y a l'argent qui arrive avec la privatisation et la publicité qu'il a, donc les chaînes sont très très riches, et donc il y a l'arrivée de ces animateurs producteurs qui sont produits donc à l'extérieur, ce système qui va perdurer et qui va commencer à se gripper dans les années 2000, où pour moi je fais toujours le parallèle entre Jean-Luc Delarue et la télévision, c'est-à-dire que la télévision là a tous les moyens de préparer son avenir, on voit arriver Internet ou ailleurs, et là on continue à brûler, et on notamment tout le renouveau de la fiction qui a lieu dans les pays étrangers n'a pas lieu en France.
Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que vous en profitez aussi, Vincent Mellet, pour raconter des séquences d'une extrême violence. Alors évidemment, c'est un point d'orgue, le scandale des animateurs producteurs, mais un conseiller de Jean-Pierre Elkabbach va littéralement prendre au collet Jean-Luc Delarue en lui disant « Si tu ne négocies pas, tu vas en mourir, ta carrière est finie, on va te carboniser ». Mais à plusieurs reprises, Jean-Luc Delarue, lui-même, dans les années qui suivront, négociera avec Jean-Pierre Tessier ou avec Rémi Flimelin, et lui-même s'en prendra physiquement à ses interlocuteurs.
Oui, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a ce conflit de génération. C'est vrai que sur le Jean-Pierre Elkabbach, dans cette période-là, il voulait vraiment il y a eu l'idée un petit peu de dire, c'est le plus jeune, c'est le plus fragile, on va être le bouc émissaire. Et lui, ça lui donne l'envie de se battre. Et il découvre à ce moment-là la violence des rapports. Et il se trouve qu'il est très doué dans sa défense, puisque lui, il perdure.
Et quelque c'est part, lui le qui public, flingue Elkabbach.
Voilà. Et ça, à partir de là, ça ne lui partira pas. Mais surtout, ce que je décris, c'est que c'est une époque où c'est très un monde d'hommes, assez viril, et on surjoue la virilité, les menaces de mort, les menaces physiques dans cette période-là. Voilà, ça c'était évident et c'était assez surprenant. Et c'est vrai que j'ai écrit ce livre, c'est une vraie réflexion sur pourquoi ce milieu du divertissement produit autant de violence en son sein. Alors il y a plusieurs explications, bien sûr il y a l'argent, les enjeux de pouvoir, il y a aussi que c'est stressant de faire des... Il y a beaucoup de travail dans le stress, on fait sortir des émissions quotidiennes
parce
ou hebdomadaires.
Parce qu'il y a deux violences qui se rejoignent, c'est-à-dire la violence que le producteur de la rue impose à l'animateur de la rue, il y a la violence que l'homme de la rue impose à son corps, parce que tout ça est fait de nuits sans sommeil, de médicaments, de joints, d'alcool, de cocaïne. Il y a la violence qu'il va endosser lui-même et qu'il va exercer à l'encontre de tout son entourage.
Et bien après, on ne peut pas devenir artiste sans avoir une violence intérieure, quoi. Il y a avoir une certaine névrose ou une certaine chose à donner. C'est comme je dis, la télévision se fait aussi avec ses tripes, elle ne se fait pas toujours avec la tête et avec la raison. Et quelque part, c'est pour ça que moi j'aime... C'est un livre qu'on certains qualifient de dur. Moi, je dis qu'il est cru sur la télévision. C'est que c'est une aventure humaine. C'est à la fois une aventure humaine intérieure et c'est un rapport, surtout avec Jean-Luc Delarue, sur la société telle qu'elle évolue, parce qu'on est en contact permanent avec la société. Bizarrement, c'est un monde clos et un monde complètement connecté sur la société. Et c'est ça qui est assez passionnant à vivre et à vivre dans toutes ces contradictions.
Merci beaucoup, Vincent Mellet. Jean-Luc Delarue, la star qui ne s'aimait pas, est donc paru chez Fayard. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers.
Vous allez soigner mes insomnies, c'est le drame de ma vie.
On va essayer de comprendre quelles sont les conséquences du manque de sommeil sur notre santé. Graves conséquences. Par exemple, sachez que les femmes qui travaillent de nuit ont beaucoup plus de risques d'avoir un cancer du sein. Donc on va évoquer toutes ces questions-là. Dites-nous, quelles conséquences le manque de sommeil a-t-il eu sur votre santé au 01 45 24 7000.